Le journal Anne Fauquemberg. Bonsoir Anne.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. La facture du Brexit, elle pèse lourd dans les futures relations entre Londres et les chefs d'État européens réunis à Bruxelles aujourd'hui. Nous n'avons pas fait la moitié du chemin, selon Emmanuel Macron. Nous entendrons le chef de l'État au début de ce journal et nous verrons avec Quentin Dickinson qu'en dépit de ce blocage, les 27 font preuve d'indulgence à l'égard de la Première ministre Theresa May. Alors que le groupe État islamique est en train de perdre son dernier territoire en Syrie, la lutte contre le djihadisme se renforce sur Internet. Au G7, des ministres de l'Intérieur en Italie, un plan adopté pour parer la propagande en ligne. Les précisions à suivre de Mathilde Imberti. En France, la Cour d'assises spéciale de Paris s'efforce toujours de comprendre quel a été le rôle d'Abdelkader Merah dans les tueries de Toulouse et Montauban en 2012. Abdelkader Merah, interrogé par la partie civile cet après-midi sur sa conception de la religion. Compte rendu d'audience de Florence Turme dans un instant. À Marseille, Édouard Philippe ouvre le dialogue avec les départements, inquiets par la baisse des dotations allouées par l'État. Le Premier ministre ne parvient pas à calmer totalement les inquiétudes, va nous dire Stéphane Robert. Enfin, l'enquête du journal de 18h. La SNCF, machine d'influence et de communication. Enquête signée Laetitia Chérel à la fin de cette édition. Mais avant de développer les titres du journal, c'est une semaine sanglante qui se referme en Afghanistan. Le pays a été la cible de 4 attaques meurtrières. La dernière en date, il y a quelques heures seulement à Kaboul. Un kamikaze s'est fait exploser à l'intérieur d'une mosquée chiite de la capitale du pays. Il y a au moins 32 morts et 41 blessés, Sonia Ghezali.
L'attaque a commencé en début de soirée. Un kamikaze s'est fait exploser dans la mosquée Imam Zaman, quelques minutes avant la prière du soir en ce vendredi saint pour les musulmans. À un moment donc où les fidèles étaient nombreux dans la salle de prière. Un autre homme armé aurait ensuite ouvert le feu selon certains témoins sur place. Cette mosquée est fréquentée par les musulmans chiites de la capitale afghane. Elle se trouve dans un quartier dans l'ouest de Kaboul, le quartier d'Ashtebarchi, qui est majoritairement habité par la minorité religieuse chiite, minorité Hazara. Le 26 août dernier, cette communauté avait déjà été prise pour cible à Kaboul. 28 personnes au moins avaient été tuées dans une attaque. Une cinquantaine d'autres blessés. L'attentat avait été revendiqué par le groupe État islamique qui avait procédé selon le même mode opératoire que celui utilisé par les assaillants ce soir, à savoir une attaque suicide suivie ou précédée d'une fusillade. Depuis son implantation dans l'est du pays il y a 2 ans, le groupe État islamique ne cesse de s'en prendre régulièrement à la minorité chiite en Afghanistan.
Correspondance à Kaboul, signée Sonia Ghezali. À Bruxelles, au deuxième jour du sommet européen des chefs d'État, la première ministre britannique Theresa May s'est entretenue en tête-à-tête ce matin avec le président du Conseil, Donald Tusk. Objectif, reconstruire une atmosphère de confiance et de bonne volonté alors que les négociations sur le Brexit semblent s'enliser. En ce qui concerne la phase 1 des discussions, censée solder la facture de Londres envers Bruxelles, on est encore loin des 50 à 60 milliards nécessaires. Emmanuel Macron l'a confirmé ce midi et les 27 ont l'intention de rester fermes.
Nous sommes aujourd'hui loin du compte sur le plan des engagements financiers et si nous souhaitons, comme la Première ministre May s'y est engagée dans son discours de Florence, être sûr que personne n'aura à payer davantage ni à recevoir moins et être sûr que le Royaume-Uni honorera l'ensemble de ses engagements pris en tant que membre de l'Union européenne, aujourd'hui, je dirais que nous sommes loin d'avoir atteint les engagements financiers nécessaires pour engager la phase 2. Et donc, tout en saluant les avancées, je veux ici rappeler notre volonté d'être extrêmement structuré et tout le travail qu'il reste à faire.
Des propos recueillis par Quentin Dickinson que nous retrouvons en direct de Bruxelles. Bonsoir Quentin.
Bonsoir Anne, bonsoir à tous.
Fermeté d'Emmanuel Macron, on l'entend. Pour autant, les 27 ont entamé la phase 2 des négociations. Les discussions concernent les futures relations économiques avec Londres, négociations qui ont lieu pour l'instant en interne entre les 27. Donc, c'est une façon de faire un geste envers Theresa May qui est venue en personne plaider sa cause à Bruxelles.
C'est un geste en effet, mais c'était la réponse minimum à la quasi-supplique de Theresa May hier soir au dîner de travail avec ses 27 homologues, chefs d'État et de gouvernement. Madame May avait instamment prié ceux-ci de faire preuve de compréhension vis-à-vis de la situation politique inextricable dans laquelle son prédécesseur, son parti et sa presse l'ont placé. Et elle demandait un peu de grain à moudre pour éviter un retour calamiteux à Londres. Les 27 ont considéré qu'il valait effectivement mieux éviter par les temps qui courent que Theresa May soit évincée par ses des amis politiques, plus brexiteurs qu'elle, et par conséquent, ils ont fait deux gestes. Le premier, vous y faisiez allusion, c'est de lui dire que, en interne et à huis clos, autorisation était donnée aux équipes de hauts fonctionnaires des pays de l'UE de commencer à réfléchir à ce que pourrait être un accord commercial entre l'Union européenne et le Royaume-Uni après le Brexit. Cela ne contrevient en rien à la procédure actuelle qui interdit toute négociation directe entre Londres et l'UE sur l'avenir, dite phase 2, tant que la négociation de divorce, nom de code phase 1, n'a pas avancé suffisamment, ce qui est évidemment loin d'être le cas à l'heure actuelle. L'autre sucre d'orge tendu à Mme May, c'est la précision donnée formellement aujourd'hui de prolonger la période initiale de négociation phase 1 au-delà de l'échéance actuelle, c'était lors de ce sommet-ci, jusqu'au prochain sommet en décembre. Mais parallèlement, a-t-il été redit aux Britanniques, il ne sera plus question à ce moment-là de reculer encore. Et si l'accélération des pourparlers réclamés par tous ne donne pas les résultats escomptés, inévitablement alors l'hypothèse du non-accord reprendrait de la probabilité.
Merci Quentin Dickinson pour votre analyse en direct de Bruxelles. Le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy s'est aussi exprimé à l'issue de ce Conseil européen. Il a expliqué les mesures exceptionnelles envisagées par Madrid pour suspendre l'autonomie de la Catalogne en réponse au référendum sur l'indépendance du mois dernier. Un Conseil des ministres extraordinaire se tiendra demain en Espagne et pour manifester leur désapprobation, les Catalans séparatistes se mobiliseront également demain dans les rues de Barcelone et en parallèle, ils retirent le plus d'argent possible dans les banques, Isabelle Labéry.
Au distributeur de la Caixa, place de Catalogne, Alex vient de retirer 500 euros.
500 euros.
Et 500 euros pour ce jeune géographe de 25 ans, c'est une somme importante.
Bueno, lo poco que tengo.
Son retrait est un acte militant.
C'est une forme de pression citoyenne, pacifique, qui permet de montrer clairement qu'on est mécontent de voir les banques déménager leur siège social hors de Catalogne. Moi, je veux être l'un de ceux qui participent, parce que je ne comprends pas cette attitude. La banque appartient au peuple. S'en aller, c'est nous tourner le dos, c'est nous lâcher, nous, les citoyens.
Entre 8h et 9h ce matin, créneau indiqué par les associations pour cette action symbolique, des files d'attente se sont formées devant les distributeurs ou les guichets. Certains citoyens retirant même 155 euros en référence à l'article 155 qui menace de priver la Catalogne de son autonomie. Alex, lui, gardera son argent chez lui jusqu'à ce que la situation soit un peu plus stable. Il n'a aucune idée du délai.
Reportage d'Isabelle Labéry à Barcelone. Jean-Yves Le Drian débloque 15 millions d'euros supplémentaires pour venir en aide aux populations syriennes après la chute de Raqqa. Le ministre des Affaires étrangères l'a annoncé il y a quelques minutes. Et puis, alors que le groupe État islamique ne dispose plus de territoire concret au Moyen-Orient, la lutte contre le terrorisme s'amplifie sur Internet. Au G7 des ministres de l'Intérieur sur l'île d'Ischia, dans le sud de l'Italie, les 7 pays concernés, dont la France, sont parvenus à un accord avec les géants du web. Google, Microsoft, Twitter ou encore Facebook s'engagent à tout faire pour retirer les contenus terroristes, Mathilde Imberti.
Google, Microsoft, Facebook et Twitter étaient représentés à ce G7, une première. La naissance d'une alliance pérenne, espère le ministre de l'Intérieur italien, regrettant toutefois que l'organisation État islamique se déplace sur Internet comme un poisson dans l'eau. Un sommet fondateur, selon le ministre de l'Intérieur français, Gérard Collomb, avec cet engagement concret des géants du web à bloquer les contenus de propagande.
Il y avait eu, en marge de l'Assemblée des Nations Unies, une déclaration par le président Macron, par Theresa May, par le Premier ministre italien, en disant « Nous souhaitons que dans les 2 heures, après un téléchargement et un message faisant l'apologie du terrorisme, ou bien appelant à commettre des actes terroristes, que dans les 2 heures, ce message puisse être enlevé. » C'est ce à quoi les grands acteurs d'Internet se sont engagés.
La France, qui a dû faire front commun avec l'Italie et le Royaume-Uni pour venir à bout des réticences des États-Unis, peu favorable à cette intervention directe sur le web. Les pays du G7 s'engagent par ailleurs, après la chute de Raqqa, à recueillir ensemble et échanger les informations sur les combattants du djihad de retour dans leurs pays respectifs.
Les précisions de notre correspondante en Italie, Mathilde Imberti. La 3e semaine d'audience se termine au procès d'Abdelkader Merah, le frère aîné du tueur de Toulouse et Montauban. La cour d'assises spéciale de Paris cherche à comprendre la dérive meurtrière du jeune homme qui avait assassiné 7 personnes en mars 2012 avant d'être abattu par le raid. Quel est le rôle de son grand frère Abdelkader qui s'est décrit ce matin comme un musulman orthodoxe qui n'appelle pas à des actions violentes? La religion était au cœur de l'audience aujourd'hui et la partie civile a posé poser ses questions cet après-midi. Le compte-rendu d'audience de Florence Turm.
La parole est à la partie civile et maître Laurence Sechmann s'empare du micro. En voilà une belle leçon de taqiya que vous venez de nous livrer. Elle fait référence à la ruse utilisée par les terroristes islamistes pour tromper l'ennemi. Abdelkader Merah ne la regarde pas, tournée vers les magistrats qui composent la cour, commence toutes ses réponses par « Monsieur le Président ». L'avocate cite une conversation entre sa mère et lui. « Maman, le cadeau que m'a fait Mohamed, c'est le plus beau que l'on m'ait fait ». La réponse est simple, réplique l'accusé. Dans l'islam, le Créateur nous éprouve. Cette incarcération injuste, je la considère comme une épreuve de purification des péchés. Autre conversation avec votre mère, poursuit Laurence Sechmann. Si je devais avoir un enfant, je l'appellerais Mohamed. Oui, c'est mon petit frère, c'est mon sang. Et oui, si j'avais un enfant, je l'appellerais Mohamed en souvenir de mon petit frère. Pouvez-vous éclairer la cour ? Interroge l'avocate. Votre frère, c'est un martyr. Abdelkader Merah continue de biaiser. Il existe plusieurs sortes de martyrs. Une personne qui meurt noyée dans la mer, une femme qui meurt alors qu'elle attend un enfant. Vous ne voulez pas répondre ? L'interrompt Laurence Sechmann. Devant le box, l'avocat de la défense, Éric Dupond-Moretti, s'agite, proteste. L'accusé reprend, mais de plus en plus fidèle. J'ai condamné de manière claire, si je dois me répéter à chaque question, ça s'appelle de l'esquive, monsieur. Oui, mon frère, c'est un musulman terroriste, finit-il par lâcher, et personne n'échappe à la justice divine, mais comment pourrais-je souhaiter qu'il aille en enfer plutôt qu'au paradis ?
Le compte-rendu d'audience de Florence Sturm, et puis toujours au palais de justice de Paris, à la 16e chambre correctionnelle, celle qui est spécialisée dans les délits terroristes. 6 hommes viennent d'être jugés pour être partis en Syrie en 2014 aux côtés de figures du djihadisme français et de proches de Mohamed Merah. Parmi eux, il y avait justement le beau-frère du tueur au scooter. Ils ont été condamnés à des peines allant de 2 ans ferme à 15 ans d'emprisonnement. 15 ans pour Imad Djebali, qui était jugé en récidive et qui est soupçonné d'être le chef de cette filière toulousaine. C'était un déplacement miné pour le Premier ministre. Édouard Philippe était à Marseille ce midi au Congrès des départements de France. Les associations d'élus locaux sont toujours remontées contre le gouvernement qui leur impose depuis l'été dernier des efforts d'économie supplémentaires. Bonsoir Stéphane Robert.
Oui, bonsoir.
Les départements qui gèrent l'essentiel des aides directes à la personne comme le RSA ou encore l'accueil des mineurs étrangers isolés ont-ils été rassurés par le Premier ministre ?
Disons que cette fois, Édouard Philippe n'a pas brutalisé les présidents de départements, contrairement à ce qu'il avait fait il y a 3 semaines avec les régions en confirmant la suppression d'une ligne budgétaire de 450 millions d'euros. Non, là au contraire, il a commencé par les cajoler, notamment sur le fait qu'ils ne sont pas voués à disparaître et qu'ils n'auront pas non plus nécessairement à céder la place aux métropoles comme ce qui s'est fait à Lyon.
Je crois que ce qui a pu prendre forme à Lyon n'est pas nécessairement et dans les mêmes termes reproductible ailleurs, ni à Marseille, ni à Paris.
Ensuite, sur leurs difficultés financières, notamment sur les prestations sociales comme le RSA, qui n'est pris en charge que partiellement par l'État et qui génère des gouffres budgétaires, ou encore pour les mineurs non accompagnés, phénomène migratoire en pleine expansion, là encore, le Premier ministre avait décidé de faire des gestes pour apaiser la situation.
Commençons par le financement de la solidarité. Nous travaillons à la mise en place d'un mécanisme de fonds d'urgence en loi de finances rectificative pour 2017. Deuxième sujet que nous devons aborder en pleine responsabilité, la situation des mineurs non accompagnés. Des véritables filières se sont mises en place. Pour sa part, l'État assumera l'évaluation et l'hébergement d'urgence des personnes se déclarant mineurs entrants dans le dispositif jusqu'à ce que leur minorité soit confirmée.
Mais parallèlement, Édouard Philippe a rappelé que le cadre budgétaire fixé par Emmanuel Macron cet été était toujours d'actualité. C'est-à-dire qu'on va bel et bien leur demander de faire 13 milliards d'euros d'économies sur l'évolution de leurs dépenses de fonctionnement dans les 5 ans à venir.
Nous voulons construire un mécanisme avec les collectivités territoriales qui nous permettra d'assurer une maîtrise de l'évolution des dépenses publiques locales, une maîtrise de la hausse des dépenses publiques locales. Il n'a jamais été question de baisser le volume des dépenses publiques locales. Et pour ce faire, loin de mettre en place un mécanisme de diminution ex ante de la DGF, nous voulons créer un mécanisme contractuel avec les collectivités territoriales, pour nous engager dans cette voie.
L'objectif pour le Premier ministre était avant tout que les départements, contrairement aux régions, ne claquent pas la porte de la conférence des territoires qui doit se tenir mi-décembre. Pour le dire autrement, à défaut d'avoir rassuré ses interlocuteurs, Édouard Philippe a sans doute réussi à gagner un peu de temps.
Merci Stéphane Robert pour vos explications. Les députés ont voté cet après-midi la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune et son remplacement par un impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, mesure toujours contestée par l'opposition de gauche. De Los Angeles à Paris, en passant par Montréal, aucun milieu social ou professionnel n'échappe depuis une semaine à la dénonciation du harcèlement sexuel dans le milieu du travail notamment, conséquence de l'affaire Weinstein, du nom de ce producteur de cinéma américain, désormais poursuivi par la justice. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir Anne.
Des centaines de milliers de témoignages tombent toujours sur les réseaux sociaux sous les mots-clés « balance ton porc » ou « moi aussi ». Mais signe du déni qui subsiste dans ce domaine, les femmes témoignent également publiquement dans les médias.
Oui, la boîte de Pandore est ouverte. Plus de 425 000 messages sous le hashtag « balance ton porc » à 17h45. Ça évolue tout le temps. C'est un déferlement avec des dérives possibles, bien sûr. Des témoignages, en tout cas, on peut lire ces dernières minutes. Les jolies négresses comme toi, elles font le tapin d'habitude, ou encore Boucle d'or qui relaye des dizaines de récits anonymes. J'avais 11 ans, j'étais dans la chambre de mon frère, j'avais 14 ans, ça a ruiné ma vie, on m'a droguée. Bref, sur ce fil Twitter, beaucoup d'hommes aussi se défendent, insultent, demandent aux filles de leur envoyer des photos de leurs seins, par exemple, pour faire progresser le féminisme. Voilà pour l'ambiance. Alors, comme le dit le canard enchaîné, les femmes agressées méritent sans doute mieux que d'être prises pour des balances, en référence au hashtag, et la culpabilité d'un violeur ne se décrète pas sur Twitter. Alors, vous parliez de la presse aussi, Anne. Exemple, la fille de l'ancien ministre Éric Besson a accusé une statue vivante, dit-elle, d'avoir soulevé sa jupe avec insistance lors d'une soirée à l'Opéra. Et à l'Express, elle a confié que c'était Pierre Jox, lequel nie aujourd'hui. Vous plaisantez sans doute, dit l'ancien ministre, il va porter plainte pour dénonciation calomnieuse.
Une accumulation de témoignages donc qui a incité la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, à préparer une loi contre l'impunité des crimes sexuelle.
Ce sera en 2018 sans doute, oui, comment agir? 10% des agressions sexuelles font l'objet de plaintes seulement et 1% de ces faits dénoncés se terminent effectivement par une condamnation. L'impunité est quasi totale. Le gouvernement va travailler sur la formation des policiers, des juges, des médecins, car les conséquences psychotraumatiques sont effroyables et les victimes mettent en moyenne 13 ans à trouver un professionnel de santé capable de les aider.
Merci Tara Schlegel pour vos précisions. L'enquête du journal de 18h, la SNCF, machine d'influence. Bonsoir Laetitia Chérel.
Bonsoir Anne.
L'entreprise publique qui, rappelons-le, affiche une dette colossale de 53 milliards d'euros, investit aussi beaucoup d'argent dans sa communication.
Alors vous vous souvenez sans doute de l'inauguration en juillet dernier des TGV Paris-Bordeaux et Paris-Rennes avec champagne et caviar à bord. Le chiffre de 6 millions d'euros avait été avancé et même si la SNCF précise que ce serait 3 millions, ça reste une somme très importante. Ces dépenses, elles sont un peu à l'image de la communication du groupe, comme le remarque le journaliste du Monde, Éric Béziat. Il est spécialiste des transports.
La communication, elle est pléthorique. Tous les jours, on reçoit 2, 3, 4 sollicitations par des entités différentes de communication de la SNCF. Parfois même, deux entités différentes de la SNCF peuvent vous inviter à un même événement. Donc on a le sentiment d'un trop-plein, d'un boursouflement de communication. Il semblerait qu'il y a près de 900 personnes qui s'occupe de la communication à la SNCF.
En 2013, déjà, la Cour des comptes avait épinglé la SNCF pour son budget communication, évalué alors à 210 millions d'euros par an. Elle pointait par exemple des séminaires hors de prix ou des cérémonies de vœux à 2000 euros par invité. La SNCF précise aujourd'hui qu'elle a mis en place ces derniers mois un plan de réduction de son budget communication et de ses effectifs.
Alors ça, c'est pour la communication classique, mais la SNCF a aussi beaucoup recours à des agences externes de communication.
Oui, des agences dont les plus importantes sont choisies par Guillaume Pépi lui-même. Leur patron le conseille en personne sur la stratégie du groupe ou sur son image personnelle. Ce type de contrat se serait développé ces dernières années selon un ancien haut dirigeant de la SNCF qui a tenu à conserver l'anonymat. Nous avons fait lire ses propos par un journaliste.
Ces contrats étaient, il y a 3-4 ans, de l'ordre du million d'euros par an pour chaque cabinet de consultant. Par exemple, pour Giacometti, il y a eu des prestations supplémentaires payées à la journée, en comptant le temps de préparation, quand ils ont animé des séminaires de direction de communication ou quand ils sont intervenus en conseil et accompagnement de certaines réorganisations. C'est arrivé souvent.
Et la SNCF semble efficace également dans le lobbying auprès des politiques.
Oui, il arrive souvent qu'elle place certains de ses cadres dans des cabinets ministériels, des agents bienveillants en quelque sorte, qui peuvent être utiles pour donner un coup de pouce sur des dossiers sensibles. Yves Crozet est économiste et spécialiste des transports.
On sait bien que la SNCF a toujours été et continue à être un important pourvoyeur de personnel dans les cabinets ministériels et qu'il y a aujourd'hui quelqu'un qui est au cabinet de Madame Borne et qui vient directement de la SNCF et qui a été un très proche du président de la SNCF. Donc la SNCF est sans doute en France une des entreprises qui a le meilleur lobbying face aux pouvoirs publics. Quand vous avez un tiers de votre chiffre d'affaires qui vient de dotations publiques, il faut soigner les relations avec les autorités publiques.
Et ce lobbying marche aussi dans l'autre sens. Ainsi, la SNCF recasse des politiques. Elle a même un surnom, la voiture balai des politiques. Elle embauche de préférence des élus locaux qui sont décisionnaires depuis 2002 dans les investissements dans les trains régionaux. Dans ce contexte, certains experts estiment que la SNCF s'est éloignée de son cœur de métier, qui est d'abord, rappelons-le, de faire rouler des trains et si possible, à l'heure.
Merci Laetitia Cherel, la SNCF machine d'influence et de communication. Votre enquête est à lire en longueur sur notre site internet franceculture.fr. La météo demain, samedi 21 octobre, des vacances qui commencent malheureusement sous la pluie pour une bonne partie du pays, mais l'extrême est et les régions Rhône-Alpes, Auvergne et Provence-Alpes-Côte d'Azur seront épargnées. Les températures au réveil de 14 à Brest jusqu'à 24 à Ajaccio.